Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Bonjour à tous, et si je vous proposais une discussion autour d'un thé ? À chaque échange, je serai accompagnée de professionnels, parents, jeunes ou enfants, pour aborder une thématique sucrée liée à la parentalité. Mais avant, je vais vous présenter mon plateau, en commençant par Barbe Riche, mets les pieds dans la tasse.
Toujours.
Comment tu vas ?
Très bien, merci.
Plus besoin de te présenter ?
Je sais pas.
Ouais, non, je pense que nos auditeurs vont vite te repérer. Tu es adepte de la langue sans. Tu es adepte du sans langue de bois. Berger, pas mouton.
Comme c'est indiqué sur mon suite, que vous ne voyez pas. Comme on est en audio, mais.
Notre conversation commence bien. On est également accompagné de Sandra. Bonjour Sandra.
Bonjour Amine.
Tu vas bien ?
Très bien.
Alors Sandra, tu es maman, mais également issue de l'animation populaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Mmh. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de ta présence autour d'un thé. Merci à toi, Sandra.
Merci de m'avoir invitée.
On a également la jeune Naya qui est là, 20 ans, en formation d'éducatrice spécialisée. Comment tu vas ?
Très bien, merci.
Tu es accompagnée de ta maman, Angéline.
C'est ça.
Salut Angéline. Tu vas bien ?
Très bien.
Alors toi, tu es également issue du milieu de l'animation populaire, mais tu as de multiples casquettes depuis, dont tu pourras nous parler dans quelques instants.
Parfait, avec plaisir.
Nous avons également Benjamin qui est avec nous.
Bonjour.
Philosophe.
Il paraît.
Écrivain, à tes heures perdues aussi.
Aussi.
Je suis très très contente que tu sois avec nous autour d'un thé aujourd'hui. Comment tu vas ?
Bah, ça va bien, merci.
Nous avons également Marilyn.
Bonjour.
Salut Marilyn, tu vas bien ?
Ça va bien, et toi ?
Marilyn, tu es sophrologue.
Oui.
Maman également.
Oui.
On n'a que des mamans sur le plateau, Barbe Riche.
J'ai eu peur.
Barbe Riche est une maman. Et non, Barbe Riche est une maman.
Barbe Riche est une maman à ses heures perdues.
Bon, j'avoue, je suis un papa poule. Donc
Oui, c'est vrai.
Bah, du coup, on va commencer tout de suite par les présentations. Marilyn, qui es-tu ?
Alors, donc, moi, je suis sophrologue depuis quelques années. Et depuis un an, on développe une méthode dans les écoles pour, donc c'est tout ce qui est acquisition des compétences psychosociales, ce qu'ils appellent. Et donc, on va directement dans les écoles pour apprendre aux enfants, donc c'est sur l'élémentaire, comment se connaître soi, gérer ses émotions, gestion des conflits, l'empathie. Et pour nous, c'est une réelle prévention au harcèlement, de le faire qui c'est ça. Et puis en plus, on s'est rendu compte que y avait une meilleure atmosphère en classe et donc du coup, ça favorisait aussi l'apprentissage. Donc c'est ça. Et puis il y a un peu de périnatalité aussi, d'accompagner les mamans, les parents. Les parents en devenir.
Les parents en devenir. Merci à toi, Marilyn. Benjamin.
Oula. Que vous dire ? J'ai envie de dire, pour démarrer, je suis mère d'une grande fille de 21 ans. Et il se trouve que, alors moi j'ai une formation de philosophe, mais je travaille essentiellement dans le secteur social et médico-social. Mmh. Donc avec des travailleurs sociaux que je forme aussi, que j'accompagne, et je fais ce qu'on appelle de l'analyse des pratiques beaucoup, c'est-à-dire que j'accompagne les équipes sur les situations complexes, et je fais aussi des liens justement avec la culture hip-hop, et je travaille aussi sur les liens entre travail social et culture hip-hop.
En plus, je crois que t'as piloté un projet de réussite éducative.
Ouais, dans une autre vie, mais ouais.
Dans une autre vie.
Ouais, j'ai piloté un dispositif de réussite éducative, j'ai fait de l'insertion sur ce qu'on appelle un pôle de mobilisation aussi, j'ai été chef de service d'une structure qui s'appelle Etapado en Seine-Saint-Denis, qu'on a monté en fait, qui était une structure justement de prévention et de protection pour tous les adolescents en errance de toute la Seine-Saint-Denis.
Merci à toi, Benjamin. Angéline, qui est Angéline?
Ben, Angéline, c'est moi.
Salut, Angéline.
Angéline, c'est moi. Angéline, c'est une jeune femme. En fait, je vais arrêter de dire jeune femme maintenant parce qu'à 46 ans, ça ne le fait pas trop.
Si, on est encore jeune, on est encore jeune.
Angéline, c'est moi. Et oui, effectivement, j'ai 46 ans et je suis la maman de deux enfants. Donc, une grande fille de 20 ans qui est Naya et qui est ici à ma gauche. Et un petit bonhomme de 12 ans. Voilà, qui s'appelle Solal et qui est à la maison avec son papa. Et en plus de ça, j'ai aussi la chance, peut-être comme Sandra et d'autres ici aussi, d'évoluer depuis le début de ma carrière professionnelle auprès des enfants, des jeunes et des familles. Donc particulièrement et plus essentiellement dans l'animation et l'animation sociale, à différentes fonctions en fait. J'ai commencé en étant animatrice, après avoir été animatrice, j'ai été directrice. Dans tout type d'ACM et ensuite dans tout type d'ACM et quelques structures au niveau social, plus particulièrement des centres d'hébergement d'urgence. Et puis après, j'ai eu envie de repartir un petit peu à la source et au niveau de la formation. Donc j'ai été formatrice, puis responsable d'un service de formation à l'animation volontaire pour aujourd'hui être responsable d'un dispositif local enfance. Donc dans le cadre de la délégation de services publics, c'est de la gestion d'un service enfance pour toutes les activités péri- et extrascolaires. Voilà un peu pour sortir tout mon pédigré.
Et pourtant, voilà. je suis une gamine parce que je vous fais sortir vos pédigrés, mais l'objet, ce ne sera pas ça.
Et puis surtout, en fait, c'est peut-être ce qui m'amène ici plus particulièrement, c'est que je suis très sensible à tout ce qui touche à la parentalité. Parce que dans le cadre de mes fonctions, forcément, les parents sont des partenaires, les parents sont des éducateurs principaux avec lesquels on doit travailler. Pas on est amené à travailler, mais on doit travailler. Et quand c'est possible, il peut se passer de belles choses, en tout cas dans l'accompagnement des enfants et des jeunes. Et du coup, dans mes activités sociales, dans ma vie de tous les jours, parce que je suis entourée de plein de femmes, de beaucoup de mamans, et effectivement, la double casquette que je peux avoir parce que je travaille avec les enfants et les jeunes me permet d'appréhender sous un autre angle, bien souvent, la question de la parentalité avec... Je les appelle mes femmes, mais mes femmes, c'est toutes les femmes qui m'entourent et qui me font. Donc voilà, est-ce que ça fait de moi une meilleure maman? Certainement pas, mais en tout cas, ça force à se poser des questions peut-être que je ne me poserais pas si je n'étais pas dans ce terrain d'exercice, en tout cas dans ce secteur d'activité. Voilà.
Merci Angéline. Naya, tu es la plus jeune cet après-midi, mais c'est super intéressant et merci à toi d'avoir accepté, parce qu'en plus on t'a pris de court, pour dire la vérité. Mais c'est important aussi d'avoir des jeunes qui peuvent parler de leur rapport à leurs parents. Naya, comment tu te présenterais? Comment toi tu te vois aujourd'hui, quelle présentation tu peux faire de toi?
Alors moi, pour le coup, je suis une jeune femme, je peux le dire.
D'au moins 25 ans de moins que ta maman. Voilà.
26 même.
26.
Donc oui, soyons précis. J'ai 20 ans. Là, je suis en formation d'éduc spé à l'INFA, à Fontenay-sous-Bois, depuis fin septembre. Donc ça fait peu de temps. Et j'ai pas encore commencé mon alternance, donc c'est vraiment le début. Là, j'attends de commencer mon contrat. J'ai travaillé dans l'animation aussi pendant 2 ans. Après mon bac et un début de prépa. Et voilà.
Mais c'est déjà pas mal à 20 ans. Hein. Ouais, franchement, merci à toi, Naya. Sandra, qui es-tu?
Alors, donc moi, Sandra, 41 ans. J'ai,
et demi.
Oui, j'y tiens, parce que je ne suis pas encore arrivée avec 42. Donc, j'ai deux garçons qui ont 6 et 9 ans. Et j'ai un petit peu le même parcours qu'Angéline, c'est-à-dire que j'ai démarré animatrice et puis directrice d'accueil collectif de mineurs. J'ai fait de la co-coordination sur le projet éducatif de territoire, sur la collectivité territoriale où je travaille encore actuellement. Et donc on a monté en place pas mal de projets et autour de la montée en compétences des animateurs, beaucoup de formations autour de la parentalité, de l'intérêt du jeu de société, l'intérêt du rituel, de l'histoire qu'on lit aux enfants. Et là, dernièrement, donc, je suis sur un poste de coordinatrice extrascolaire. Voilà.
Ok, je crois que tu aimes aussi participer à ce qu'on appelle favoriser les espaces d'accueil des enfants pour les aménager différemment.
C'est ça, parce que c'est très très important. C'est là que leur personnalité se construit.
Ouais.
On met en place une dinette, c'est pas seulement pour jouer, il se passe plein de trucs autour d'une dinette.
On va avoir l'occasion d'en parler. Barberiche, on sait que t'aimes mettre les pieds dans la tasse, mais avant, ouais. Qui es-tu ?
Je sais pas moi-même.
Ah, c'est problématique ça.
On n'est pas dans la merde.
Franchement. Tu veux une tasse de thé pour te.
Barberiche, c'est mon pseudo. Parce que je travaille dans les médias depuis une dizaine d'années. Donc, animateur, chroniqueur, producteur d'émissions. Dans le civil, si je peux dire ça comme ça, j'ai un parcours un peu animateur, éducateur sportif. Ces 10 dernières années, j'ai travaillé dans un projet de réussite éducative. Donc voilà.
Ok. T'es pas cofondateur de Sopark non plus ?
Et cofondateur d'une entité qui s'appelle Sopark.
Accessoirement. Donc merci, comme vous avez pu le constater, on a un plateau plutôt riche, divers et varié. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de dire que être parent, c'est pas si simple. La conversation, je le rappelle, c'est une conversation sans prétention aucune, juste des adultes qui se rencontrent et qui échangent autour d'une thématique que je vais vous délivrer. Si je vais bien, tout va bien. Mais je suis obligée de commencer par vous demander comment vous allez. Comment vous allez ? Comment vous vous sentez ?
Là, à l'instant T, là ?
Ouais, à l'instant T.
À l'instant T, là, pendant l'émission ?
Ouais, là, maintenant, tout de suite. En plus, tu fais des jeux de mots à l'instant T.
J'ai même pas fait attention. très bien. Alors, moi, je suis un petit peu stressée, hein, parce que c'est la première fois. Mais voilà. Et comment je me sens en ce moment ? Je dirais que j'ai plein d'émotions qui se mélangent. Dans ma vie privée, là, en ce moment, avec mon dernier, c'est un petit peu compliqué, la gestion des émotions.
Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Et vous, les autres, comment vous sentez ?
Moi, franchement, je suis trop contente d'être là et de rencontrer de nouvelles personnes et de partager avec vous. Donc, et puis, dans ma vie en ce moment, c'est challengeant, mais c'est cool.
Ok.
Eh ben, je vais prendre la suite. Moi, c'est vrai que je suis ravie d'être là avec vous aussi. Alors, c'est vrai que moi, si je réfléchis par rapport à ma parentalité, vu que c'est le thème, c'est vrai que j'ai une fille qui est grande, qui est à peu près un petit peu plus vieille que Naya, et qui est en train de finir ses études et de rentrer dans la vie active. Donc, on est aussi beaucoup dans le moment où, forcément, c'est un âge où on remet en question aussi son éducation. Mmh. Et où on a des grandes discussions de fond, mais qui sont hyper intéressantes, justement, parce que ça permet de re-questionner ce qui nous paraissait évident quand elle était petite. Voilà.
Je vois Angéline qui hoche la tête.
Oui, je pense qu'avec Angéline,
mais...
on va communiquer. Elle et moi là-dessus.
Angéline, comment
je me sens ? Je suis extrêmement ravie d'être là aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Après, c'est bien parce que ce genre de moment, ça me permet d'aller au fond de l'exercice. On profite de l'instant présent. Je suis là, ici, maintenant. Et ce genre d'instant, ça facilite ça et c'est tellement bon. Donc, je suis très contente d'être là. Et puis après, ma parentalité aujourd'hui, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que mais c'est bien avec le thème de « je vais bien, tout va bien », parce que je suis dans une période un peu de grande vulnérabilité en tant qu'être humain, tout simplement. Et du coup, ça vient aussi, la parentalité vient aussi se bousculer, heurter tout ça et ces changements intérieurs. Donc, c'est une période comme un genre de mue un peu, dans laquelle tout le monde essaye un peu de trouver sa place. Mais je dirais, période de vulnérabilité.
Ok.
Voilà.
Naya, comment tu te sens ?
Moi, ça va. Un peu stressée, parce que je ne m'attendais pas à être là avec vous maintenant tout de suite. Mais non, ça
forcé.
Va. On m'a un peu forcé la main.
Ouais. Hey, je te paye quand même, ça va. Oups, je l'ai dit à l'antenne. Non, je rigole.
Non, ça va. Après, niveau parentalité, je ne suis pas maman.
Mais ton rapport avec ta maman, par exemple, avec tes parents, tout simplement.
Moi, j'ai toujours un bon rapport avec eux. Là, en ce moment, ça va, j'ai repris l'école, donc je pense qu'ils sont contents.
Ouais.
donc ça va. Après, j'ai beaucoup été à la maison, là, à cause d'une blessure, donc je les supporte un peu beaucoup, mais ça va.
Ah ouais, voilà. Ça va. Tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole des jeunes. Barberis, comment tu sens ?
Des jeunes, donc des moins jeunes maintenant, c'est ça ?
Bah, toi, t'es un jeune expérimenté, en tout cas.
Ouais, bien dit.
T'as vu ?
Ouais, c'est bien dit. Du coup, ouais, moi, je passe par différentes émotions, parce que j'ai trois filles qui ont des âges, donc 11, 13 et 15. Donc, j'ai la dernière, pour elle, je m'en fais pas trop, parce qu'elle elle vit pleinement sa vie, elle est dans l'insouciance totale, donc ça va. J'ai la deuxième qui elle aussi vit pleinement sa vie.
Mais,
qui...
mais si elle pouvait un peu moins, ça t'arrangerait.
Ouais. Hein, non, mais ça va la deuxième. La deuxième, ça va. Elle se donne des objectifs déjà à son âge et elle fait tout pour les atteindre. Donc je m'en fais pas trop pour elle, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que ma fille de 15 ans, elle, dans sa tête, c'est chamboulé quand même. Parce qu'elle se pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, je trouve. Mm. Donc c'est vrai que là, 15 ans, ça devient quand même l'âge où il faut être vigilant un peu sur l'évolution de son enfant, je trouve. Mm. Les angoisses, en plus, là, 15 ans, c'est l'entrée au lycée. Donc forcément, c'est une nouvelle étape. Et donc je pense que ça aussi, ça me travaille quand même. Je suis quand même, même si je le montre pas forcément à la maison, je suis très, très, très vigilant parce que je pense que chez les jeunes, c'est au moment du lycée où tout peut basculer. Donc voilà.
Ok, ça marche. Ben, en tout cas, moi, je suis très contente. Je suis ravie de vous avoir autour de moi. Tout autant de visions, de parcours différents. La thématique, c'est si je vais bien.
Mais comment tu te sens, toi, Ami ?
Ben, justement, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens épanouie. Et j'ai l'impression que c'est un tournant, en fait. Mmh. Je suis à un tournant de ma vie où là, je suis... Mon slogan, c'est « Personne ne doit rester à l'arrêt ». Mmh. Et là, j'ai l'impression que non seulement je ne suis pas à l'arrêt, je vais très vite et montrera qui pourra dans le train parce qu'il ne va pas s'arrêter. Non, je suis en plein essor, je suis contente. Et juste le fait de voir ce projet se concrétiser, cette émission, ces deux émissions dédiées à la parentalité et de se dire qu'on a l'espace pour s'exprimer, bah c'est juste magique. Donc là, je suis sur un petit nuage, je vous regarde, je suis trop contente. Et c'était important pour moi aussi que dans les premiers épisodes, je puisse avoir des personnes avec un regard, une expertise certes, mais surtout des personnes de confiance dont je connais un petit peu la façon de penser. Mais c'est rassurant pour commencer d'avoir des personnes qui... Certains vont faire le choix d'aller vers des inconnus totales. Moi, je fais le choix de commencer avec un noyau en qui j'ai confiance, non seulement l'expertise, en la posture. Donc je sais qu'il y aura du contenu, mais c'est amour sur le plateau. Donc voilà, je me sens amour.
Oh, c'est
des fois, ça m'arrive. Alors j'espère que vos tasses sont bien chaudes pour ceux et celles qui se sont servis du thé. On est parti pour une bonne heure trente d'échange. Si je vais bien, tout va bien, mais qu'est-ce que le bien-être ? Pour vous, c'est quoi le bien-être ? On n'attend pas forcément de réponse scientifique, mais déjà, vous, pour vous, comment vous définiriez le bien-être ?
Pour moi, c'est à chaque fois, je pense à... C'est d'être à l'aise dans ses baskets, mais vraiment, genre... En fait, tu fais ta vie, t'as une relation avec les autres qui est bonne, t'as une relation avec toi qui est bonne... Mais en fait, en acceptant que la vie fluctue, en fait, que ça ne peut pas être... Parce que c'est ça un peu le problème des fois avec le bien-être, et je le vois en accompagnement, c'est que les gens s'attendent à ce que la vie soit fluide tout le temps, quoi. Mais la vie, c'est pas ça. Qui vit une vie comme ça ? Personne. C'est juste de se dire, OK, mais il y a des moments où ça va aller moins bien et des moments où ça va aller bien. Et juste, je vais essayer de surfer en fait sur les vagues en fait tant que je peux sans trop tomber. Bon, bah il y a des fois où je vais tomber parce que bah il y a des fois où il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont vraiment déstabilisantes, mais pour moi le bien-être c'est d'essayer d'être dans quelque chose où il y a du plaisir. Il y a beaucoup de Alors, bon, moi, j'ai beaucoup de mamans en accompagnement, donc je n'ai pas parlé de papa, mais les mamans, il y a quelque chose de très... elles vivent beaucoup dans la contrainte et dans le sacrifice énormément, et souvent, il n'y a plus de plaisir du tout, en fait, dans leur vie. Il n'y a plus aucun... Enfin, c'est un... Et puis même moi, je suis passée par là aussi au tout début. Hein. Il n'y a plus de plaisir. Tu es en mode pilote automatique. Il faut avancer. Tu as la responsabilité d'un enfant. Donc allez, on y va, quoi. Et de remettre du plaisir dans sa vie, je trouve que c'est hyper important, surtout en tant que parent. Voilà.
Bah, j'enchaîne.
Ouais. Ouais.
Promis, on fera pas de tour de table. Hein, ouais.
C'est vrai que, enfin, c'est une question qui est compliquée, la question du bien-être, parce qu'en fait, déjà, on a des définitions potentiellement différentes les uns des autres, et puis, c'est vrai que moi aujourd'hui, je trouve qu'il y a parfois une dictature du bien-être aussi, comme si aller mal, ça devenait compliqué, que ça devenait compliqué à accepter pour les autres, en fait. Parce que je dis ça dans le sens où, c'est pour moi, en fait, j'aurais presque envie de dire que moi, j'ai l'impression que je vais bien quand les gens autour de moi sont bien. Ça peut surprendre un peu comme ça, parce qu'il y a un petit côté un peu utilitariste, mais en même temps, je trouve qu'on oublie, pour moi, qu'il y a quelque chose de très collectif et de très, qui est important dans le fait d'aller bien aussi quand les autres autour de nous vont bien. Qui nous renvoie quelque chose de positif aussi. On pourrait se dire que le bien-être, c'est juste ne pas souffrir. Dans l'absolu, de ne pas ressentir quelque chose de l'ordre de la souffrance, quelle qu'elle soit. Or ça, c'est pas complètement possible, parce que j'ai envie de dire, on peut avoir mal au dos et quand même aller bien. On peut, enfin, voilà. Donc il y a plein de petites choses qui viennent mettre à mal, comme tu disais d'ailleurs, le bien-être qui peut pas être quelque chose de fluide et de constant. Mais j'ai envie de dire moi j'aurais envie de dire un bien-être collectif, c'est-à-dire de pouvoir se dire que finalement, quand on œuvre à faire du bien, ça nous fait du bien. Aussi. Voilà, que quelque part d'accompagner les autres, d'avoir l'impression qu'on permet à quelqu'un à un moment de se sentir bien, ne serait-ce que ça, même si ça dure que 3 minutes, même si c'est éphémère, c'est déjà quelque chose qui fait du bien. Voilà.
C'est pour ça que c'est important de le définir, parce que déjà on n'a pas la même définition, mais comme tu dis, il y a une injonction du bien-être sociétal qui du coup, on va en parler, je pense, tout à l'heure, de cette santé mentale. Angéline, pour toi, le bien-être?
Après, pour moi, le bien-être, déjà, c'est une quête de tous les instants, je pense, pour tout le monde. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait une définition qu'on puisse trouver de façon collégiale, en fait. C'est assez... c'est profondément, je pense, et intimement subjectif, le bien-être. En tout cas, c'est, pour moi, sans entrer dans aucune subjectivité, c'est être dans un état où je me sens alignée. Où je me sens alignée entre ce que je pense être, ce que je fais et ce que je vis, en fait. Donc, pour moi, en tout cas, je l'assimilerais à cette notion d'alignement.
Voilà. D'accord, ça marche.
D'alignement entre ce que je veux, ce que je vis et ce que je suis. En tout cas, ce que je pense être. Et du coup, ça me met dans un état... on appellera ça l'état de flow, on appellera ça l'état de béatitude intense. Chacun y mettra les mots qu'il veut, mais ces moments-là, un peu suspendus, où je ne vais pas avoir la notion du temps, je vais être juste en fait dans un kiff pas possible.
Total.
Voilà, ça c'est le summum du bien-être. Mais de façon générale, le bien-être, moi, je l'assimilerais plus à de l'alignement. Mais je vais rejoindre aussi mes camarades dans l'idée que... c'est pas pérenne et c'est pas quelque chose de constant finalement tout le temps. Il y a des pics en fait, il y a des pics comme ça qu'on prend à la volée qui sont des instants, des instants suspendus, mais voilà, le socle à mon sens doit être présent, ce socle de bien-être peut être présent constamment. Moi de ma fenêtre, il est intimement lié à l'estime de soi, on peut pas les dissocier, qui fait que j'ai un socle un peu comme une jauge qui est toujours à peu près remplie et qui vient attraper au vol des instants suspendus comme ça de kiff intersidéral. Mais ces kiffs intersidérals, ils peuvent pas être pérennes et constants tout le temps comme ça. Voilà, peut-être que ce serait ça pour moi le bien-être.
Naya?
Je suis plutôt d'accord avec ma mère.
C'est pas mal, déjà, c'est pas mal, c'est pas mal.
T'es bien éduquée, t'es bien éduquée.
Attention, c'est vrai. Non, pour moi, ce serait... Je trouve aussi que c'est pas quelque chose dans la longévité qui ne... Enfin, ça dure pas, pour moi, l'état de bien-être. C'est un moment donné. Et ça serait, pour moi, l'insouciance, en fait. C'est ne pas se soucier du après, du comment je fais. Ah, je dois faire ça, et puis il faut que je pense à ça. Et c'est vraiment un instant qui est coupé, oui, du reste du temps. Et c'est.
C'est ta fille. Ouais, c'est ta fille. Et j'ai pas ramené la mienne, hein.
J'espère que mes filles écoutent.
Donc voilà, oui, ça peut se rapprocher de l'état de flow, du coup, aussi. Parce que par exemple, moi, j'ai un état de bien-être quand je fais mes devoirs, ça peut m'arriver. Pourtant, c'est un peu.
Pas à chaque fois, rassurez-moi.
Pas à chaque fois. Parce qu'alors mais, là. Ça, du coup, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on se dit, bon, les devoirs, c'est un peu. On n'a pas forcément envie de les faire. Mais c'est vrai que des fois, tu atteins un niveau de. Je fais ce que je dois faire, et ce que j'ai envie de faire, et ce qui me plaît sur le moment, et on ne pense pas ou après, quoi. Donc, moi, ce serait plutôt ça aussi.
Super. Sandra, pour toi.
Tu vois, Angéline, tu as employé le mot alignement, et pour moi, c'est carrément ça. En fait, dernièrement, j'ai été voir une énergéticienne et qui me disait vous n'êtes pas alignée. Et en fait, ça a germé en moi ce truc. Et moi, je dirais que le bien-être, pour moi, c'est une paix intérieure, une sérénité. Et pour reprendre un peu ce que disait Naya aussi, c'est de pas trop se prendre la tête. Il va y avoir des éléments qui vont venir parasiter, mais voilà, t'es bien, t'es à l'aise dans tes baskets, dans tes décisions, et voilà.
Mais je crois qu'aussi le fait qu'il y ait bien-être... Déjà, c'est connoté, en fait. Tu vois, le fait de... Je crois qu'il faut qu'on invente un autre mot, de toute façon. Mais tu vois, le fait que ce soit bien... C'est comme les émotions positives et négatives, ça m'énerve. Mais tu vois, c'est forcément... Du coup, ça connote dans ton cerveau que forcément, tu dois aller bien.
Ouais. Et on doit être bien.
Et on doit être bien. Donc,
Et être quelqu'un de bien, ça, c'est encore autre chose.
Être quelqu'un de bien.
Parce que, mais en fait, bien-être, ça renvoie à ça. Ah, c'est ouais, être quelqu'un de bien, en fait.
Déjà pour soi. Barberiche.
Moi, je vais pas aller dans la philosophie comme
comme moi.
Comme Mika. Non, moi, le bien-être, c'est déjà d'être en capacité de faire ce que je veux. Et il y a la notion aussi du bien chez les autres. C'est-à-dire que si mes proches vont bien, moi, je vais bien. Parce que j'ai une façon de vivre qui fait que j'observe tout, j'essaye d'être un peu protecteur avec les miens, et donc si les miens vont bien, je vais bien.
Il a oublié sûr devant protecteur.
c'est à l'appréciation de chacun.
Et de chacune.
Surtout de chacune, je crois.
Est-ce qu'on peut dire que ça reste un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit? Est-ce que ça rejoint un peu...
C'est une définition Larousse, ça.
Ouais. Et en fait, justement, l'idée, c'est de se dire que nous, on a réussi à faire cet exercice de se l'approprier pour pouvoir donner notre propre définition. Pour autant, on parlait tout à l'heure d'injonction, il y a des gens tout simplement... parce que pas la ressource ou parce que pas le réflexe de s'arrêter, vont juste aller ouvrir le Larousse et regarder bien-être. Ok, je suis dedans ou je suis pas dedans. Mais oui, du coup, dans cet état d'esprit, de se dire le bien-être, c'est quand même un alignement, comme vous avez dit. Et ben, est-ce qu'on peut essayer ensemble de réfléchir et de se dire à quel moment vous sentez bien? Qu'est-ce qui vous rend bien? Quelles sont les choses agréables dans une humeur, un état positif dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez un exemple concret de choses que vous faites qui fait du bien?
Vas-y, tu veux y aller?
Est-ce que je vais oublier après?
Alors vas-y.
Moi, je suis bien quand je suis devant mon match de foot et que personne ne casse la tête à la maison. Ouais. Non, mais parce que t'as voulu un exemple concret, ouais, c'est-à-dire... Ouais. Le fait de... Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme je suis toujours sur le qui-vive par rapport à ceux qui m'entourent, et ben c'est un moment, tous les samedis, c'est un moment...
Et le jeudi et le mardi.
Où en fait, je me permets de...
De couper avec l'extérieur.
De couper avec l'extérieur.
C'est plus en hypervigilance.
Je suis dans ma chambre, je mets les chaînes de foot, et toute la journée, je suis en train de regarder des matchs de foot sans me préoccuper de ce qui se passe. Et donc là, je suis bien.
Ouais, ok.
Alors moi, c'est vrai que par rapport à la définition justement du Larousse, il y a un truc qui m'a un peu surprise, c'est le côté calme de l'esprit. Moi, en fait, je vais être bien mieux quand ça s'enchaîne dans ma tête, et notamment par exemple quand j'écris. C'est pas un moment qui est très calme dans ma tête, loin de là, mais par contre c'est un grand moment de bonheur et d'exaltation, et donc quelque chose qui me met extrêmement bien. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec la définition du Larousse, pour le coup. La notion de calme
n'est pas...
En tout cas, je ne trouve pas que ça soit le calme de l'esprit, même si j'entends bien la notion d'apaisement, mais qui, en fait, prend des formes totalement différentes selon qui on est. De la même manière que l'alignement, ce n'est pas quelque chose qui va, en fait, être forcément du calme. On peut être très aligné en étant très actif et en étant très enthousiaste et exalté même. À prendre avec des pincettes. Mais ça n'empêche que voilà, la notion de calme, d'apaisement, de trucs qui soient juste sans émotion, par exemple. Moi, parfois, il y a certaines colères que je peux ressentir.
Qui font du bien.
Oui, parce que, par exemple, voilà, moi, le fait de pouvoir être en colère contre des injustices, je trouve que, en fait, c'est quelque chose qui participe de mon bien-être. Alors, ça paraît comme ça un petit peu paradoxal, et en même temps, c'est précisément parce que, justement, je vais retrouver d'autres gens dans cette colère qu'il y a quelque chose qui va me permettre de me sentir bien aussi avec eux, parce qu'on partage quelque chose. Et à ce moment-là, je me sens humaine. Je me sens appartenir à l'humanité. Ça, pour le coup, pour moi, ça participe de mon bien-être. Voilà.
Et c'est bien que tu rebondisses. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de déconstruire pour que chacun puisse trouver sa zone de bien-être, pour le coup, mais sa zone où il se sent bien. Et si toi, tu te sens bien dans l'interaction, dans l'hyperactivité, etc., c'est OK. Tant que toi, ça te fait du bien. Et vraiment, l'idée, c'est que les auditeurs, en nous entendant, chacun et chacune, ils puissent se projeter aussi en se disant « Mais ouais, c'est vrai, en fait. On n'arrête pas de me dire « Mais calme-toi. Mais si, le fait de me calmer, ça ne me fait pas du bien. »
Mais par exemple, c'est en marchant que je trouve le calme. Enfin, quelque part, le fait de marcher, donc d'être en mouvement, c'est un moment, on en parlait juste avant, mais enfin, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et qui, quelque part, agite aussi des pensées. C'est le moment où je pense le mieux et où il y a un vrai sentiment d'apaisement, en fait, en mouvement.
Ouais. En mouvement. Sandra, Naya ?
Alors moi, c'est un exemple tout bête, mais là, en ce moment, le moment où je me sens bien, c'est au moment de l'histoire du soir avec mes enfants, où on va être tous les trois dans le lit, et voilà, les corps se collent, et voilà, tu sens la chaleur de leur corps, et c'est un moment qui est partagé, et où je sens plein d'amour. Et du coup, ça me réconforte, et je me sens bien à ce moment-là.
Ok, ça marche. Naya ?
Moi, ça serait, je pense, les moments d'échange avec des gens que je connais pas trop. Même des gens que je connais, d'ailleurs. J'aime beaucoup les moments d'échange. Je me sens vraiment bien, en fait. Là, je pense parce que j'ai recommencé l'école, donc forcément, j'en ai plus qu'avant, avec de nouvelles personnes qui ont des parcours bien différents du mien. Et les moments de pause déjeuner, même pendant les cours, on a beaucoup de débats, et c'est des moments que j'aime beaucoup, en fait. Et je me sens vraiment bien.
Tu te sens bien dans ces moments-là. Angéline, t'as un moment particulier?
J'ai un moment particulier, j'ai des moments, j'ai des moments où je me sens bien. Après, je suis clairement, moi, un pur jus des relations sociales. Donc forcément, je me sens bien, là, je me sens très bien et ça me fait du bien, en fait. Je me sens bien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me retrouver face à un groupe de jeunes ou de moins jeunes, mais en tout cas d'apprenants dans ma position, soit d'intervenantes, de formatrices, ou tout simplement participantes à une instance, et de voir l'émulsion de l'intelligence collective, les yeux qui s'ouvrent et qui se posent des questions. Ça, pour moi, pour le coup, c'est vraiment, vraiment des moments de flow, en fait. Le souci, en tout cas, pour moi, c'est que ces moments-là sont aussi assimilés de ma pratique professionnelle. Et du coup, à un moment donné, mon bien-être ne peut pas... Moi, c'est mon vécu qui me dit ça, en tout cas. Mon bien-être ne peut pas reposer uniquement sur mon interaction avec les autres. Parce que s'il n'y a pas d'autres,
ça s'écroule.
Tout s'écroule. Donc... toute ma quête, en tout cas en ce moment, parce que voilà, cette grande période de vulnérabilité, c'est de trouver ma grotte, en fait. De trouver ma grotte et de trouver le truc que je peux faire qui va me ressourcer, me redonner de l'énergie, de la force, me faire du bien, sans pour autant que ce soit lié à une interaction avec quelqu'un d'autre, avec les autres. Pour le coup, j'ai toujours aimé marcher, donc je dirais aujourd'hui que marcher continue à me faire toujours autant de bien. Et là, je découvre que rester, et je découvre, hein, parce que voilà, rester posée dans mon canapé à regarder des séries,
voir de la télé-réalité.
Voilà. Franchement,
mais on y est aussi.
Barberie, je crois que je vais signer comme toi.
Là,
je
l'ai bien découvert.
Là, j'ai découvert et franchement. Voilà.
C'est pas mal non plus. Hein.
Ah, mais oui, mais je me prends toutes les charriades de toute la famille, les enfants, le mari, parce qu'ils ont jamais, m'ont jamais vu comme ça. Mais je vais décréter une journée où, ouais, et là, je découvre le bienfait de ne plus être dans le faire.
Le rien.
Le rien, en fait. En fait, c'est pas vraiment rien, parce que je suis connectée avec ma petite télé quand même, mais en tout cas, le rien, être posée.
Physiquement, en tout cas.
Physiquement, voilà. Ouais. Et je m'endors quand je m'endors, et j'ouvre les yeux quand j'ouvre les yeux. Entre-temps, ils ont essayé de changer de chaîne, mais ça marche pas. Voilà. Donc, non, c'est vraiment... Et ça, c'est une grande découverte. Et du coup, bah, peut-être que ça va figurer dans la liste... des trucs qui me font du bien.
Ouais.
Voilà.
La question qui suit, en lien avec la parentalité ou pas, ou l'éducation, est-ce que vous arrivez à identifier quand nos enfants vont bien, ou quand nous on va bien, quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur nos enfants, sur l'éducation qu'on essaye de leur apporter, ou au contraire quand on va pas bien, chacun le prend la question comme il le souhaite, ou au contraire quand on va pas bien, bah, quelles répercussions aussi ça peut avoir sur nos enfants, ou comment on identifie qu'eux-mêmes ne vont pas bien. J'ai fait exprès de faire une question super large parce qu'on est beaucoup, l'idée étant que chacun puisse s'exprimer sur un prisme et que ça soit pas redondant, mais lancez-vous les amis.
Les enfants, ils ont ce détecteur, enfin moi je vais parler des miens, en plus ils sont plus petits, ils ont ce détecteur pour voir quand tu vas pas bien. Moi mon dernier là, il y a quelques temps, il me dit, et c'est quelque chose qu'il m'a jamais demandé, maman je vais dormir avec toi ce soir. Bah non, maman elle dort avec papa et toi tu dors dans ta chambre avec ton frère.
Parce que ça me fait du bien de dormir avec papa.
Et il me le redemande comme ça plusieurs fois et je me dis bon bah je vais donner accès à cette requête. Donc on a dormi ensemble dans le canapé et en fait il m'a raconté mais plein de choses, il arrêtait pas de parler et il s'est endormi. Et puis le lendemain, il me dit « Maman, c'était trop bien de dormir avec toi ». Et je pense qu'il a senti que moi-même, je vivais un moment qui n'était pas facile. Et du coup, il a peut-être su que j'en avais besoin de me retrouver là, dans le lit avec lui.
À voilà. Parler pendant des heures, en tout cas à l'écouter parler pendant des heures et des heures.
Et je dirais que, par exemple, quand tu as vécu une journée professionnelle un peu compliquée émotionnellement, où voilà, tu as voulu envoyer chier tes collègues, mais que tu n'as pas pu parce qu'il faut que tu gardes ta posture professionnelle, et tu rentres à la maison et tu vois que ton mari n'a toujours pas fait passer les enfants à table, machin, tu te dis oh là là, elle va se finir quand en fait cette journée. Et qu'au final, bah, tu arrives et que là tu vois tes enfants qui rigolent à table, on est là, on échange, ça s'apaise en fait et tu l'oublies. Et je vais revenir encore, hein, je vais être un peu lourde avec ça, avec ce rituel de l'histoire du soir, mais c'est vraiment hyper important parce que c'est un moment où on est connecté avec ses enfants et t'oublies tout. Toi en tant qu'adulte, je pense que même les enfants ils oublient les querelles dans la cour de récré et voilà, c'est un moment où on est en famille, entre nous et on est vraiment dans notre bulle quoi, et personne peut nous atteindre à ce moment-là.
À ce moment-là, génial.
Quelqu'un... Mais bah, moi je sais que, admettons par rapport à mon fils, je sais quand ça va pas, tu vois, quand il sort de l'école, qu'il y a une contrariété et tout. Et des fois, j'ai beau lui poser la question, donc mon fils va avoir 10 ans et je sais très bien. Il sort, je fais, ah ok, il s'est passé un truc. Je lui dis, ça s'est bien passé à l'école? Oui, oui. Et je sais que non, tu vois. Et puis il va y avoir, en fait, il est très. Il va emmagasiner beaucoup de choses. En fait, il va commencer à s'énerver ou être insolent sur un truc. Ou d'habitude, ça, tu vois, jamais ça se passe comme ça. Dès que ça se passe pas comme d'habitude, je sais. Ok, qu'il y a un truc, il va falloir que j'aille creuser. Alors je pourrais le punir parce qu'il m'a mal parlé ou quoi que ce soit, mais je me dis, mais en fait, si c'est pas un truc contre moi forcément, c'est qu'il y a un truc à aller creuser, quoi. Et des fois, d'avoir cette disponibilité-là, j'arrive pas à le dire.
Ouais, disponibilité.
Disponibilité-là de se dire, je vais aller chercher plus loin, ça se travaille. En fait, tu vois, parce que des fois t'as pas envie d'être disponible, t'as pas envie d'aller chercher, il t'a saoulé et c'est tout, point quoi. Et c'est tout un travail en fait. Enfin, vraiment, c'est pour les enfants, mais en même temps, on revient sur les injonctions. Il y a tellement de gens, tu vois, qui travaillent. Moi, j'habite en banlieue, le nombre de gens qui passent 4 heures dans les transports tous les jours pour aller travailler sur Paris. Enfin, c'est juste l'enfer, en fait, pour eux. Et ils doivent rentrer à la maison et être disponibles pour leur enfant. Tu vois, c'est vite pas gérable, en fait. Donc, il y a des choix, des décisions, il y a tout ça. Mais clairement, moi, je sais, alors juste pour la petite histoire, moi, je sais que mon fils, en fait, très petit, c'est un enfant qui avait des crises. Vraiment, c'était tout le temps très en colère, tout le temps des crises de larmes, tout le temps des espèces de... C'était des tempêtes, des tsunamis, des trucs. je comprenais pas, en fait, ce qui arrivait. C'était très violent pour moi. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était complètement connecté à moi. Mais c'est hyper dur, en fait, de dire, putain...
Qu'est-ce que t'entends par complètement connecté à toi ?
Parce que moi, c'était la merde à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et que du coup, j'essayais de faire bonne mine et de me dire, je tiens le coup et tout ça. Mais c'est très dur d'avouer que, tu vois, ça vient te... C'est parce que du coup tu te dis ça vient de culpabiliser. Déjà, quand en tant que parent, on culpabilise de ouf, mais alors là tu te dis ça, tu ouais. C'est hyper culpabilisant, mais je me suis dit bon, peut-être que c'est, en fait, au moment où j'ai eu cette réflexion là je me suis dit bon, c'est peut-être pas la réalité, mais peut-être que je vais aller creuser de ce côté là donc j'ai commencé à suivre, à faire des thérapies en tout genre. Et en fait, j'ai commencé à voir mon fils qui d'un seul coup, les crises commençaient à descendre d'un seul coup, tout, et moi j'étais là, je suis waouh,
c'est magique,
donc vraiment c'est hyper connecté quoi.
Ouais. Donc, je te voyais réagir, Benjamin.
Oui, parce que c'est vrai que ce que tu évoques sur la question de la disponibilité, on peut pas tous l'avoir, et il y a plein de moments dans la vie où on l'a pas fait, et donc c'est toute la difficulté aussi de la parentalité. C'est que, en effet, nos enfants vont ressentir notre état global. Et là-dessus, je ferai quand même un peu une petite différence sur notre capacité à sentir comment ils vont entre avant et après l'adolescence. Quand même.
C'est vrai.
Parce que il y a petit, c'est quand même vite, on observe, le corps parle, enfin, ça va vite. À l'adolescence, c'est d'autres formes, et en plus des formes qui peuvent être, voilà, et qui peuvent faire qu'on peut passer à côté en tant que parent, aussi bien intentionné soit-on. Enfin, on peut être amené à passer à côté de certaines choses, et c'est là où, en plus, il y a la question de la disponibilité qui est quand même hyper importante, puisqu'il y a des conditions de vie qui vont faire qu'on va être plus ou moins capable de pouvoir être à l'écoute de j'ai envie de dire, de l'état émotionnel de son enfant. Il y a des choses qui nous tombent dessus, auxquelles on n'est pas forcément préparé, aucun d'entre nous, qui font que il y a des événements de la vie qui vont faire que de toute façon tout le monde va mal. Et comment on fait avec ça aussi, comment on fait, parce qu'on a tous des moments où, j'ai envie de dire, je vais poser des gros mots, mais on a tous des moments de dépression en tant que parents, qui sont des moments qui peuvent être très difficiles, que ce soit lié à une séparation, parce que ça arrive quand même régulièrement, que ce soit lié à un décès, que ce soit lié à une difficulté de travail, que ce soit lié à des conditions économiques qui peuvent devenir complexes, tout ça peut amener à des phases plus ou moins dépressives, qui fait nécessairement que dans la dépression, on n'est plus à l'écoute de l'autre. Et qu'on ce soit nos enfants ou pas.
Bah oui.
Donc, on a tous des moments où on n'est pas à l'écoute de nos enfants aussi. Aujourd'hui, voilà, moi, si je prends mon exemple, autant je peux encore, et ça la fait rire, mais voilà, il suffit que ma fille s'engueule avec son mec et je ne dors pas de la nuit. et c'est le lendemain que j'apprends qu'elle s'est engueulée avec. Mais il y a un truc, et je sens qu'il se passe quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus, et il se trouve que, voilà, en général, dans les 48-36 heures, on s'est au téléphone, et il y a un moment où je vais savoir qu'il s'est passé un truc, mais ce n'est plus que dans un sens. aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que dans les moments où moi je vais moins bien, je sais que ça impacte aussi ma fille, mais ça ne se, j'ai envie de dire, ça ne se manifeste plus de la même manière. C'est-à-dire que ça va être aujourd'hui plutôt quelque chose de plus défensif, de plus mise à distance, qui peut renforcer finalement le mal-être des deux côtés aussi.
Mmh,
donc si on n'arrive pas à le prendre à rebours, par exemple, récemment, moi j'ai pu passer à côté de certaines choses parce que je le prenais plutôt, voilà, un peu entre guillemets contre moi sur certaines choses, et où il a fallu un certain temps et qu'on décortique l'une et l'autre pour se dire bah non, finalement là moi j'étais passée à côté aussi d'une souffrance à elle que je n'observais pas et qui avait des manifestations et des symptômes qui se jouaient à d'autres endroits. Enfin, et ça pour le coup je pense que même pour l'ado c'est compliqué parce qu'on n'est pas à un moment, alors là je parle vraiment de l'adolescence qui est donc avant 20 ans où on est vraiment dans le moment où c'est difficile de mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent. Et petit, il y a quelque chose d'assez spontané qui est plus facile à exprimer. Et puis, il y a un moment où ça passe plus par le langage et ça va passer par d'autres aspects. Ça va passer par des conduites à risque, ça va passer par... Et des choses qui, donc, forcément, en tant que parents, nous inquiètent, nous mettent à mal aussi parce que ça vient questionner aussi les valeurs qu'on a transmises. Ça vient questionner parfois des choses qui nous paraissent importantes, qui sont transmises aux enfants, mais qui vont avoir besoin de malaxer un peu et de tourner dans tous les sens. Donc voilà, c'est ce qui va faire que parfois, aussi dur que ça puisse être à entendre, nos enfants ne nous font pas du bien.
Bien sûr. Et du coup, la prochaine question, elle est un peu pour toi, Naya, dans le sens où est-ce qu'aussi nos enfants ne mettent pas en place des stratégies ? Parce que, quel que soit... Tout à l'heure, tu parlais du fait que des fois, on peut passer à côté. Et quelle que soit notre bienveillance, et souvent les gens ils te disent oui mais toi t'es dans le milieu éducatif donc est-ce que non c'est pareil
sauf les
que
cordonniers les plus mal chaussés
et puis surtout c'est que ce que je réponds c'est que bah justement enfant d'éducateur spécialisé tu as encore plus de stratégies à mettre en place pour me cacher les choses peut-être mais du coup t'inquiète pas qu'elles ont développé des compétences dans ce domaine et du coup ma question pour toi Naya c'est aujourd'hui quand toi tu n'es pas bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas être bien et de ne pas avoir envie d'en parler à tes parents ? Déjà, dans un premier temps.
Oui.
Ok. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir cette capacité à ruser, en fait, si on peut dire ruser, mais en tout cas à cacher ce mal ?
Oui, après, moi, le truc avec ma personnalité à moi, c'est que j'ai quand même, émotionnellement parlant, j'ai une intelligence émotionnelle quand je pense qu'elle est assez développée. Donc je capte facilement les émotions des autres. Et les miennes, j'arrive à mettre des mots dessus, mais j'intériorise beaucoup. Donc je suis pas dans un déni, mais peut-être un pseudo-déni sur moi, ce que je ressens moi-même. Et donc il est impensable pour moi de le montrer aux autres. Ça veut dire que je pense que j'ai développé des ruses. Après, je sais pas si c'est des ruses. C'est peut-être
des stratégies, quoi.
Oui, voilà. Mais je pense pas que ce soit vraiment conscient, que je le conscientise totalement. Mais c'est vrai que, enfin, il y a plein de moments où je me dis, peut-être ça va pas, mais il faut que, enfin, je vais faire en sorte que ça aille, parce que dans tous les cas, j'ai pas le choix en fait. Et que, bon, mes parents, ils ont d'autres problèmes que s'occuper de moi et de mon petit mal-être qui peut être, pas dérisoire, mais on va dire que c'est pas la priorité. Et du coup, oui, moi je sais qu'il y a plein de trucs que mes parents n'ont pas, enfin, ils l'ont vu peut-être pas autant. Et ça n'a pas pris autant d'importance que ce que moi, je pouvais ressentir à ce moment-là.
C'est pour ça que je t'ai posé cette question, pour justement ouvrir le débat. Et je redonne la parole à tout le monde, pas forcément Angéline, mais elle a dit, et souvent les enfants, ils le disent, mes parents, ils ont d'autres problèmes.
Ouais.
Et c'est dérisoire par rapport aux leurs, ou c'est dérisoire par rapport à... Et du coup, ils minimisent un mal qui est un mal, parce qu'un mal reste un mal. Qu'est-ce que vous dites de ça, en tant que parents? Comment vous accueillez cette parole ?
Ben, on est censé protéger ses enfants, mais très souvent, c'est les enfants qui nous protègent. Moi, je sais que souvent, mes enfants ont besoin de choses, même si ce sont des enfants gâtés. Lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, elles font toujours attention à notre situation financière, toujours. Ouais, mais ça c'est trop cher, en ce moment c'est un peu compliqué. Donc elles sont vraiment dans cette bienveillance. Et tout à l'heure je parlais de ma grande, on va dire que c'est plus ma grande qui est comme ça, c'est qu'elle préfère intérioriser que de dire. Parce qu'elle sait que si elle dit, c'est la foudre qui va s'abattre. Quand je dis c'est la foudre qui va s'abattre, pas sur elle, mais elle sait que que sa mère va le prendre très empathique, donc du coup ça va peut-être mettre à mal sa mère en tout cas, et elle sait que son père il est très impulsif, donc selon les situations elle sait que son père dans certaines situations il peut avoir des comportements disproportionnés. Quand je dis ça, disproportionné, c'est pas forcément envers elle, c'est pas quand c'est envers elle, c'est-à-dire que si ça, quelque chose qui se passe à l'extérieur avec d'autres personnes, elle me dit toujours non papa tu vas me foutre là hein. Mais non papa, mais non, tu vas aller voir le prof tu vas aller l'afficher.
Ça va être pire après.
Ouais, ça va être pire après, tu vas te foutre la honte. Non, parce que moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à mes enfants. Même si je suis très respectueux, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Dès qu'on touche à mes enfants, parce que, en fait, mes enfants, je les ai élevés d'une manière. On ne sait pas comment les enfants peuvent tourner, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants ne sont pas les enfants qui vont faire du mal aux autres, vont faire des bêtises ou être des meneurs négatifs. Mes trois, je sais, bon, même si la troisième, des fois...
La troisième est en moyenne.
Elle est un peu différente des deux premières, mais il y a toujours un bon fond malgré tout, même si elle est un peu plus dans l'insouciance. Donc c'est pour ça que, même si c'est quelque chose que je dois gérer, c'est que dès lors que mes filles sont mises en cause, je sais pertinemment qu'elles n'ont jamais rien fait. Et c'est souvent le cas. Et c'est tout le temps le cas. Donc dès qu'il leur arrive un truc et que je sens que c'est une injustice, bah...
Papa poule.
Papa saute au cou.
Angeline, je te voyais...
Oui, parce que ce que j'entends, effectivement, fait écho en moi et fait écho en la maman que je suis, particulièrement le témoignage de Naya, évidemment. Mais en fait, là, on est clairement...
On t'a vu essuyer ton œil.
Ouais, t'as vu, hein. On est clairement dans de la transmission, finalement... inconsciente. Alors peut-être qu'aujourd'hui la maman que je suis a la chance effectivement de pouvoir mettre des mots, de pouvoir comprendre, apprendre, découvrir des concepts qui ne sont pas innés chez moi et que d'autres ont étudié avant moi, donc me les ont rendus disponibles. Donc ça apporte un éclairage sur ce que je vis en tant que maman, sur ma relation à mes enfants que j'aurais pas si j'avais pas cette possibilité là et j'entends par possibilité, c'est tout un tas de facteurs, hein. Je vais commencer par une possibilité primaire, je sais lire français, enfin voilà, rien que ça déjà, c'est une grande ouverture. Quand je dis ouverture, ça veut dire que ça me donne accès déjà à pas mal de choses. Il y a une multitude de mamans ici en France aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité là et du coup c'est tout notre travail de les accompagner, mais en tout cas moi j'ai cette possibilité là donc déjà ça m'apporte des lectures, des lectures de ma vie de maman, et des concepts à comprendre, à essayer d'apprivoiser qui ne sont pas innés. Et là, pour le coup, quand j'entends ma fille, je ne suis pas très surprise parce que, en fait, c'est un peu la jeune fille que j'étais.
Ah bah, c'est
et
ma
pourquoi
mère.
C'est la, pourquoi, c'est la, pourquoi c'est la jeune fille que j'étais ? Pas parce que... pas parce que c'est... Enfin, déjà parce que c'est mon enfant, mais surtout parce que ce sentiment de devoir taire les émotions, de devoir garder pour soi, pour pas déranger, et pour, surtout pour rassurer, c'est ce avec quoi j'ai grandi. Après, tout s'explique, hein. Moi, j'ai grandi avec un papa qui nous disait « Bon, en fait, c'est très simple. Quand ça va pas, il n'y a que à ton médecin que tu peux dire que ça va pas, parce que lui, au moins, il peut faire quelque chose pour toi. Sinon, quand on te demande si ça va, tu dis oui, ça va.
»
Donc... voilà, ça fait partie des préceptes avec lesquels j'ai grandi. Donc forcément, la maman que je suis, elle a toujours fait en sorte de dire que ça va, même quand ça va pas, ou en tout cas d'essayer fortement de faire semblant que ça va, sauf que tu l'as dit, plusieurs autres l'ont dit, enfin, les enfants, on peut pas leur faire semblant, en fait. Donc ce qu'ils assimilent, c'est même quand ça va pas, on doit faire semblant que ça va. Parce que je vois bien que maman, elle va pas bien. Mais en fait, elle dit pas que ça va pas. Et je vois bien que maman, elle va pas bien. Mais elle fait tout comme si tout allait bien.
Donc je vais faire pareil.
C'est ce qu'il faut faire. Enfin, ouais, c'est l'exemple enfants, qu'on me donne, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et je pense que c'est de l'ordre de la transmission inconsciente, on va dire ça comme ça. Mais la chance que j'ai eue, et la chance peut-être que Naya a eue aussi, c'est qu'elle a un petit frère
qui vient bousculer tout ça.
Ouais. C'est un mec.
Qui vient bousculer tout ça. Et je crois que certains l'ont dit tout à l'heure, en fait, les enfants nous font aussi, en fait. Il y a autant de, moi, je dirais qu'il y a autant de parentalité que d'enfants. Et lui, il est venu bousculer tout ça.
Il est à l'antipode de ce que nous deux, on peut être.
Ouais.
C'est-à-dire ?
C'est tout ce qu'on est pas.
Donc, il dit quand ça va pas ?
Il le dit souvent, pas forcément.
Il essaie de le cacher, mais
en tout cas, il peut pas. Son corps lui parle. Voilà. Mais depuis tout petit, hein, j'ai connu aussi les grosses colères, les trucs. Enfin, il peut pas faire semblant. Donc, ça vient effectivement heurter la maman que je suis, mais dans le bon sens du terme, parce que ça m'oblige à adopter d'autres formes de parentalité que j'avais pas eu besoin de faire avec Naya, qui était. Qu'elle prenait et finalement c'était facile, pas dans le sens où c'était une enfant facile, même si c'était une enfant facile, mais c'était facile dans le sens où il y avait ce mimétisme qui faisait que moi j'avais pas besoin de me poser de questions.
Il n'y avait pas d'effort à faire, en
exactement moment. J'avais pas besoin de me poser de questions, là où elle faisait de gros efforts aujourd'hui que je mesure en tant qu'enfant, et moi j'avais pas besoin de me poser. Elle m'a mis dans un confort de parent qui était un leurre, en fait, mais elle m'a mis dans un confort royal, voilà. Et son frère, il est venu me rappeler qu'être maman, c'était pas juste
c'est
ça,
dur.
En fait.
C'est dur, c'est, voilà. c'est dur.
Être maman, c'était pas juste ça. Et du coup, avec son frère, bah oui, j'apprends une autre façon d'être maman. Je tâtonne, je découvre l'art de la négociation, le compromis. Non, vraiment, mais je découvre aussi quelque chose d'essentiel, et particulièrement aujourd'hui dans cette période de vulnérabilité, c'est la bienveillance. La bienveillance pour la maman que je suis et que j'essaye d'être, vraiment. Et ça, c'est primordial. Quand on entend les témoignages de mamans, l'isolement dans lequel on peut se retrouver, parce que c'est très paradoxal, mais on peut être extrêmement entouré. Je ne me définirais pas comme quelqu'un d'isolé, pour le coup. Mais on peut se sentir des fois dans sa parentalité tellement seul, tellement que de pouvoir se dire et de pouvoir s'appliquer cette bienveillance qu'on peut appliquer à d'autres, se l'appliquer à soi dans sa parentalité, dans sa façon d'être parent, je pense que c'est essentiel. Parce que, en fait, je ne suis pas la maman de Naya comme je suis la maman de Solal. Et ça, il a fallu que je l'accepte. Il faut l'accepter. Je ne suis pas la maman que je suis aujourd'hui à 46 ans comme j'ai été la maman de Naya à 26 ans. Ce n'est pas possible. Voilà. Non pas parce que j'ai changé complètement d'esprit ou j'ai été envoûtée entre-temps ou coquette, mais c'est juste que la vie, le temps a fait son œuvre. Et la maman que j'étais quand je l'ai eue n'est plus la même aujourd'hui. Et heureusement, en fait. Heureusement.
Je vois Sandra et Benjamin réagir face à ce que tu dis. À quoi tu penses, Sandra ?
Je peux passer la main à Benjamin.
Non, mais vas-y.
Non, mais t'inquiète, vas-y, alors Benjamin d'abord.
C'est vrai que moi, je réagissais par rapport à ce que tu disais, Angéline, parce que j'ai eu une discussion récemment avec ma fille autour de cette question-là, en fait, et où elle me disait, mais c'est vrai que je ne vais pas tout te dire, de temps en temps, tu as des problèmes à toi, je n'ai pas envie de te charger et tout. Et en fait, moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai grandi, alors je le dis rarement, mais j'ai grandi dans une famille où je n'avais pas le droit de dire ce qui n'allait pas, parce que sinon, je faisais du mal à mes parents.
Okay.
Donc vraiment, avec ce truc très clair, vraiment, où il suffisait que j'évoque quelque chose ou que quelque part, et je faisais pleurer mes parents, quoi. Enfin, c'était donc quelque chose, pour le coup, j'ai grandi à moi avec cette idée-là, et donc je me suis retrouvée presque à engueuler ma fille et lui dire, si tu ne me parles pas, en fait,
c'est là que je vais pleurer.
Mais en fait, c'est là où tu m'enlèves mon rôle de parent, et d'autant plus le fait qu'on ne vive plus ensemble. Ça rajoute d'autant plus ce truc-là, qui est que qu'est-ce qui me reste finalement comme parentalité ? C'est le fait d'être là pour elle quand elle a besoin. C'est tout ce qui me reste quelque part. Donc,
ouais, parce qu'elle a quitté nous.
Bah oui. Donc si elle m'enlève ça, j'ai plus rien du tout. Et ça, je lui ai dit très clairement, lui disant, s'il te plaît, m'enlève pas ça. et donc, mais c'est bien
s'il
parce que
s'il te plaît, laisse-moi être ta maman.
Mais c'est un peu ça. C'est laisse-moi être ta mère. Et pour le coup, je le vivrais très mal en tant qu'individu de me dire que je t'ai empêché quelque part à mon corps défendant finalement de m'exprimer les choses, parce que aussi comme je l'ai eu jeune, et enfin voilà, je pense qu'il y a eu ce même, et donc c'était d'autant plus important pour moi de lui dire non, dis-moi. Et alors d'ailleurs ça me fait sourire, parce que il y a très peu de temps elle m'a appelée pour me dire ah, j'ai m'engueulé avec une copine, j'ai besoin d'en parler, et là j'étais dans mon rôle de mère.
Bien, maman,
oui, voilà. Yes, ça c'est gagné.
Mais est-ce que des fois on les empêche pas aussi de taire ce qu'ils ont besoin de taire, à force de vouloir communiquer, être aux premières loges de tout, parce que hein, on le dit, mais c'est ce rapport à nous, hein. Dans notre fonction parentale, ça nous fait du bien et on se sent utile et on a l'impression de bien faire les choses quand nos enfants se confient à nous, qu'on peut au moins essayer de les guider, essayer. Mais est-ce que du coup, on ne les empêche pas par moment, un peu comme ce que Naya disait, de trouver leur propre stratégie pour s'en sortir et aller, en fait. Hein. Est-ce que des fois, voilà, cette injonction-là de « tu dois me dire », et moi, je sais que je le pratique, hein, moi, je me couche dans le lit de ma fille et je lui dis
« non, mais qu'est-ce que t'as comme problème ?»
Mais la dernière fois que une de mes filles a eu un chagrin, je me suis... En fait, d'abord, je lui ai proposé de m'en parler, elle n'a pas voulu, et je lui ai dit « bah, en fait, c'est clair ». Du coup, je dors dans ta chambre. Et elle me regarde avec des grands yeux et je lui dis, mais je suis obligée de dormir dans ta chambre. Pas parce que je veux dormir dans ta chambre, parce que c'est pas confortable. Mais surtout parce que comme j'ai peur, et comme tu ne mets pas en mots, mais tu dégages tellement de tristesse et tellement de larmes que je ne suis pas rassurée, moi. Donc, je t'oblige pas à parler. Par contre, je vais dormir au pied de ton lit. Mmh. Parce qu'il est hors de question que je ferme cette porte sans savoir ce qui te bouleverse autant. Mmh. Et que demain matin, je me réveille, que ça soit moi qui pleure. Pleure, et maman dort à ton chevet. Bon, bah, du coup, vous imaginez bien qu'elle a parlé très vite.
Maman, j'ai besoin d'être toute seule dans ma chambre.
T'as pas été dans quelque
peut-être
chose
parce que je ronfle.
T'as pas été dans quelque chose de tout de suite. Enfin, tu vois, dis-moi ce qui va passer. Juste, t'es là.
Si, j'ai essayé.
Oui, mais tu vois, t'es venue dans sa chambre, t'étais plutôt en accompagnante, en soutien. Tu vois, il y a une différence en disant tu dois. Enfin.
Moi, mais c'est une façon détournée de dire oui. Aujourd'hui tu vas parler ma fille, parce que le message de fond c'est parce qu'en fait avec ces injonctions paradoxales là on n'ose plus dire, mais limite j'avais envie de dire aujourd'hui tu vas pas fermer l'œil.
Tant que tu m'as pas parlé.
Bon, après j'ai été voilà, il y a tout cet élan éducatif et ces injonctions etc qui disent non, tu peux pas faire ça. Ok, je vais dormir à ton chevet. Mais l'envie profonde, celle que oui, j'avais envie d'hurler, c'était mais parle-moi.
Mais tu, en fait, on déteste voir nos enfants souffrir. Donc, mais je pense qu'il y a un truc de. Enfin, j'ai l'impression en fait qu'on veut tellement leur faciliter le chemin pour qu'ils souffrent le moins possible. C'est normal en tant que parent, tu vois. Mais du coup, des fois, je sais que je me dis, mais est-ce que c'est pas trop. Est-ce que je fais pas trop le matelas pour pas trop qu'ils se blessent de trop, pour pas trop que. Tu vois, enfin, tu vois, je sais pas comment vous expliquer, tu vois, mais des fois, je me dis, peut-être que de temps en temps, admettons, je vais vous prendre un exemple tout con, mais la frustration, c'est un état, j'ai l'impression, enfin c'est ce que je remarque autour de moi, et moi dans ma parentalité, c'est que il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais putain, mais en fait, à quel moment il est frustré? J'ai l'impression que je suis en train de faire en sorte qu'il ne soit pas frustré. Donc je vais essayer d'éviter des trucs, je vais planifier les choses comme ça pour pas qu'il soit frustré, pour pas que ça génère en lui quelque chose de... Mais en fait c'était complètement inconscient, mais je me suis dit, mais en même temps la frustration, ça s'apprend, en fait
c'est même vital,
donc en fait arrête de l'empêcher d'être frustré. Il est frustré, c'est juste à toi meuf de gérer sa frustration derrière. Parce que tu dis j'ai pas envie, franchement j'ai la flemme de...
C'est ça le travail de parentalité, finalement. C'est moi, je me souviens quand ma fille est née, en plus j'avais vraiment aucun repère autour, j'étais toute jeune, et je me souviens que j'avais une tante pédiatre de PMI que j'ai appelée, elle était malade, tout ça, et elle m'a dit, je lui disais, mais comment je fais pour l'empêcher de souffrir? Et ma tante qui me dit, mais Benjamine, il va falloir que tu apprennes que de toute façon, tu ne peux pas l'empêcher de souffrir. Tout ce que tu peux faire, c'est de lui tenir la main.
C'est ça.
Et en fait, à partir du moment où j'avais entendu ça, donc déjà, tout en me disant, si tu as envie de l'acheter par la fenêtre, dis-le plutôt que le faire.
comme ça, on dira, tiens-lui la main.
Voilà, tiens-lui bien la main, là, bien la main sur ce coup-là. mais avec justement tous ces trucs qui, quelque part, déculpabilisent. Moi, je crois fondamentalement que nos enfants, on ne peut pas les empêcher de souffrir. Non. Aussi violent que ça soit pour nous, ils vont vivre des choses parfois violentes, parfois difficiles, parce que le monde est ce qu'il est. Vous parliez de harcèlement la dernière fois, c'est des choses qui arrivent à plein d'enfants. On ne peut pas forcément l'empêcher, contrairement à ce qu'on pourrait espérer, en fait. On ne peut pas forcément l'empêcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accompagner, essayer de donner des armes, justement, pour pouvoir faire avec et faire face. Et c'est là où c'est ça qui est très difficile en tant que parent, en fait, parce que c'est tout cet apprentissage du détachement. Exactement. Alors qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on s'attache avec toutes les théories de l'attachement. Ouais. Et en fait, il faut qu'on apprenne aussi à se détacher. Aussi difficile que ça puisse paraître dans les têtes, il y a tout un travail aussi de les laisser, en effet, faire leurs expériences et d'être là, finalement, derrière, avec une espèce de filet de sécurité, voilà, pour les... Au cas où tu tombes, je suis là, quoi, en gros. Mais fais tes expériences parce qu'il va falloir que tu tombes et que tu montes sur le fil.
Et accepter que des fois, il y a un trou dans le filet. Et du coup, on sera là pour penser tes bobos. Mais la chute, elle est aussi primordiale pour l'enfant, pour se construire, pour comprendre. On ne peut pas tout anticiper, la frustration, elle est nécessaire.
Il y a ce truc aussi d'échec et de réussite. Nous, en tant qu'adultes, on a... L'échec a été quelque chose qu'on n'a pas du tout, je pense, en tant qu'enfant des générations qu'on est nous, hein, mais je crois qu'on était vachement sur quelque chose où l'échec n'était pas permis. À l'école, c'est quelque chose, on n'a pas le droit de se tromper. Donc en fait, on grandit avec ce truc où je vais faire en sorte que ça se passe au mieux et qu'il puisse réussir. Il y a vraiment cette quête de la réussite, en fait, qui, je crois... pollue nos enfants, parce que du coup ça les empêche de échouer, c'est possible, enfin c'est ok, quoi, c'est pas grave, ça fait mal, mais tu vas refaire autrement, tu vas agir autrement. Mais c'est aussi nous, comment notre quête de la réussite et de l'échec, en fait.
C'est ça, en fait. Et du coup, je reviens à la thématique du je vais bien, tout va bien. C'est que le valoriser l'échec et le fait de se tromper, ça fait partie de mes mots. Je fais attention à dire mots.
M-O-T-S ou...
M-O-T-S. Ça fait partie de mes mots et ça fait partie des mots que j'échange avec mes enfants, en fait. T'as le droit de te tromper, t'as pas besoin de courir, t'as le temps. Et puis si tu rates, c'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est que tu comprennes là où tu t'es trompé pour si tu veux recommencer par refaire la même erreur. Donc ça fait partie des mots que je transmets. Ça fait partie des mots que je transmets parce que ce sont des mots qui m'ont manqué. Ceci dit, c'est imprégné en moi. Ça veut dire que c'est une lutte de tous les instants. C'est ce que je vais dire, mais c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais parce que c'est pas comme ça que moi, j'appréhende ma vie de femme. C'est pas comme ça que j'appréhende ma vie professionnelle. Et pendant que moi, je fais tout ça, pendant que je monte, que je descends, que je passe 24 heures sur les 24 au boulot, à travailler, à essayer d'être comme ci, comme ça, et eux, ils sont là, en fait. Et ils voient tout ça. Donc, du coup, j'ai beau dire, t'as juste le droit de te tromper. Quand tu te trompes, c'est pas grave. Et en fait, après, tu recommences. C'est pas ce que je leur montre. Et on en revient toujours au même. Avec le transfert un peu qu'il y a eu entre le mimétisme entre Naya et moi.
T'as deux
Naya
enfants très perfectionnistes, en fait.
Exactement. Mais comme leur maman, en fait. Et ça, alors, ça se manifeste de façon différente. Et là, en fait... À chaque fois qu'il se passe une couille, hein, de toute façon, il y a toujours des bonnes choses derrière. Cette grande période de vulnérabilité que je vis, je la prends aussi comme une opportunité de montrer, en fait, maman, c'est nionne quand il s'agit de vous et elle ira toujours au front, il n'y a pas de problème. Mais maman, elle est faible. Maman peut être faible.
Elle est humaine.
Maman
elle
est humaine. Maman peut avoir des périodes de grande vulnérabilité où ça va pas et où elle a juste envie de se poser dans le canapé
et de regarder des séries
sur Netflix. Du coup, grand étonnement de tout le monde.
Du coup, la question, c'est que pendant très longtemps, on devait taire ce qui allait pas. On parle des émotions et du coup, je pense qu'à un moment donné, peut-être que tu nous feras preuve de ton... Enfin, en tout cas, tu partageras aussi ton expertise sur bah justement cet état émotionnel dans lequel on se trouve. La santé mentale, avant, c'était tabou. On ne pouvait pas dire qu'on allait mal. Aujourd'hui, elle est un peu dans toutes les bouches, la santé mentale des gens, la santé mentale des jeunes, la santé mentale. La France va mal, la France est sous cacheton. D'ailleurs, il y a un cacheton dans mon thé.
Alors c'est pas du MD, rassure-nous.
Non, c'est un antidépressif et il gère mon comportement pour pas que je saute à la gorge. Mais là on en rigole, il y a une réelle question sur la santé mentale. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour échanger et aussi de savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que pendant un moment on a tué ce mal-être. Tellement tu qu'il y a eu des drames et des vies qui en sont perdues. Et maintenant, on la met tellement en avant que presque on n'a plus le droit d'aller bien. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous définiriez, vous, cette notion de santé mentale? Comment vous l'accueillez? Quand on vous dit santé mentale, qu'est-ce qui s'allume?
Moi, c'était encore, il y a quelques années, une question qui se posait même pas la santé mentale, mais là, de plus en plus. Et après, comme tu le disais, maintenant, on parle beaucoup de ça. Tu vas à la FNAC, les bouquins de développement personnel et tout ça, tu trouves... Enfin, t'en trouves un florilège. Et moi, la première, là, en ce moment, je suis en train d'expérimenter plusieurs médecines alternatives, la kinésiologie.
Tu nous expliques ?
L'énergéticienne.
C'est quoi la kiné ?
Alors, tu connais Angeline ?
Kinésiologie, en tout cas, pas beaucoup, mais en tout cas, toutes les médecines alternatives, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aujourd'hui.
Mmh. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui seront intéressés.
Alors, j'espère
aussi
qu'il n'y a pas de kinésiologue qui écoute, parce que ça se trouve, je vais très mal le définir.
Mais c'est la façon que tu l'as vécu.
En fait, la kinésiologie, en gros, c'est bah, toi, tu ne veux pas parler, mais c'est ton corps qui va parler. Et dans nos corps, genre, il y a les traumas de nos ancêtres et tout ça. Et en fait, la kinésiologue, par exemple, elle te dit « Ah, à l'âge de 17 ans, il vous est arrivé quelque chose. Racontez-moi un peu plus. »
C'est une voyante.
Non, mais...
J'aime la tête de Naya.
Je savais que Barberiche allait réagir, mais j'ai vu les yeux de Naya qui disaient « Ouh, attends. »
En plus, j'ai les deux à côté de moi, là. Laisse tomber.
À la fin de l'émission, il faut qu'on parle.
Voilà, en fait, ton corps dit des choses et puis elle te pose des questions en fonction. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer plus que ça, mais voilà. Et moi, j'essaye de voir au-delà du médecin général.
C'est quoi, c'est Marabout Nouvelle Génération.
Marabout 2.0.
Barberie, je mets les pieds dans la tasse, et on y est.
C'est peut-être un peu toutes ces médecines finalement qui vont considérer. Si on repart sur le champ lexical du médecin, donc ils vont considérer le patient non pas juste par le prisme d'une pathologie, mais vraiment dans son ensemble. Dans son ensemble, ça veut dire quoi? Moi, quand je me présente chez mon médecin, il me dit « Bon, moi, qu'est-ce qui vous amène ?» Je dis « Bon, bah voilà, j'ai mal à la tête. »
Vous dites « T'as mal où ?»
Voilà, vous avez mal où, j'ai mal à la tête. Là, c'est vraiment autre chose, c'est-à-dire que... on le sait en vrai, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qu'il y a des douleurs qui ne se contentent pas d'être des douleurs physiologiques. Ça veut dire, je sais pas, j'ai un examen dans 2 jours, j'ai extrêmement mal au ventre, faudrait être extrêmement désolidarisé de son corps ou malhonnête pour ne pas comprendre que c'est pas une gastro qui arrive, c'est juste que j'ai une échéance dans 2 jours qui est balèze et que en fait ça me génère, ça chamboule de partout. Mais sauf que aujourd'hui la société, elle ne nous incite pas et on ne nous a pas forcément appris ici maintenant, parce que moi je vais parler de moi, mais d'où je viens, en tout cas au Cameroun, ce rapport au corps, ce langage du corps, l'écouter, on l'apprend. On l'apprend. Mmh. Et effectivement, alors on le dit en rigolant, marabout, tout ça, machin et tout.
Moi, je rigole pas.
Il y a des personnes identifiées qui sont entre guillemets spécialistes de ce rapport au corps. Alors, c'est pas conscientisé comme va le faire aujourd'hui le kinésiologue et tout ça. C'est de l'ordre de plus de. C'est chargé de beaucoup plus de spiritualité chez nous. Mais en fait, c'est ça. C'est écouter son corps et avoir en face de soi un praticien qui est capable d'écouter votre corps et de le ramener à ce que vous vivez, à ce que vous dites de ce que vous vivez et comment vous vivez vos émotions, bah moi j'ai envie de dire c'est quand même un pari pas mal, quoi. Enfin, c'est quand même un combo intéressant. Enfin, ça vaut le coup de... Et surtout que quand on rencontre des praticiens qui sont dans cette mouvance, on va dire ça comme ça, ils ne mettent pas à mal le côté médical, pratico-pratique de la médecine. C'est-à-dire, ils sont pas en train de dire « Ne prenez jamais de médicaments de votre vie, ça, c'est pas possible. » Moi, par exemple, qui ai une pathologie, une maladie chronique, il y a personne qui m'a dit en fait vous prenez pas de médicaments. Non, en fait il faut accepter le fait que quand vous êtes en crise et que là c'est pas possible de prendre des anti-inflammatoires, ça va vous permettre de sortir de la crise. Maintenant ce qu'on va travailler ensemble, c'est on va essayer de pas y aller à la crise en fait. Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là? Parce que quand vous en arrivez là, en fait les médicaments c'est votre seule bouée de survie, et encore que. Mais en tout cas, on va travailler sur comment on fait pour pas arriver là. Et pour pouvoir faire ça, c'est... Bah oui, je viens étaler mes douleurs et mes bobos, mais cette personne-là va m'accompagner pour essayer d'identifier, faire le lien avec qui je suis et ce que je vis. Et moi, je trouve que ça va pas... j'ai pas... Enfin, je pense pas qu'il l'ait non plus, mais je suis pas en train de dire que ça va remplacer la médecine classique, mais ça peut être un bon combo avec la médecine classique. Et puis des fois ça marche ou ça marche pas, hein. Mais ça peut être un bon combo, quoi.
Et tu peux être réceptive ou
pas,
non, ou
bon. Tout à fait.
Et du puis coup, ça dépend de la personne aussi que
aussi
t'as en face,
que t'as en face. Et du coup, pour juste finir ton propos, Sandra, donc tu disais santé mentale, donc toutes ces médecines alternatives, et tu disais qu'il y a quelques temps, c'est pas quelque chose, ça te parlait même pas, en fait tu te questionnais pas.
Après moi, comme beaucoup d'entre vous là autour de la table, moi je suis issue d'une famille où en fait les émotions tu les taisais, en fait il n'y avait pas spécialement de communication non plus, donc tu vas pas bien, mais ouais tu le gardes pour toi, tu vas en parler à tes copines, et voilà. La parole, des fois, elle est juste libératrice, hein. T'as juste besoin d'en parler. Tu ne demandes pas forcément une solution. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, l'exemple avec ta fille, moi, je me dis aussi que des fois, nos enfants ont peut-être juste envie de parler, mais sans avoir notre avis, ou qu'on essaye de trouver une solution pour eux.
Juste
décharger, et voilà, ça suffit.
C'est vrai que je vous écoutais là, et il y a déjà, en fait, il y a une approche qui est plus holistique et qui est la médecine orientale, en fait, et qui est une autre façon d'aborder la question de la médecine. Et quand je dis l'Orient, ça veut dire tout ce qui n'est pas européen, en fait. Européen et exporté outre-Atlantique. Et c'est vrai qu'il y a, comme ça, en fait, c'est vrai qu'il y a une approche que tu disais, Angeline, et qui est en Occident, on a divisé l'âme et le corps. Et on a cette division qui se retrouve d'ailleurs très fortement chez nous tous, où on a très souvent des douleurs à cet endroit-là. En fait, donc là, je le montre, donc à la radio, forcément, ça s'entend pas. C'est-à-dire entre les épaules et la nuque. Voilà, c'est très souvent à cet endroit-là qu'on va se retrouver avec des tensions et alors moi, c'est vrai que là, pour le coup, c'est la philo. Là, je suis désolée. Je vais amener un peu de trucs. Mais moi, j'aime bien rappeler que nous ne sommes que corps. Et quand je dis ça, nous ne sommes que corps, ça ne veut pas dire qu'on est que physiologique, c'est que le corps, il est triple, en fait. Et nous vivons à travers nos corps, et c'est nos corps qui nous expriment et qui marchent quatre fois plus même que nos têtes. C'est-à-dire que le corps, c'est à la fois la manière dont je suis perçue par vous, donc je suis un objet du monde, en fait, à travers mon corps, et vous me voyez, vous me percevez à travers mon corps, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a tous ces enjeux de perception, aussi. Ce qui n'est pas comment moi je me vis en tant que sujet à l'intérieur de mon corps, et qui ne vous est pas accessible, et en même temps mon corps a une vie propre, donc je ne me vis pas de la même manière quand par exemple je suis fatiguée, et vous ne me voyez pas de la même manière et si j'ai faim. Vous voyez, et pourtant tout ça n'est pas quelque chose qui est déconnecté les uns des autres, et tout ça fait mon état mental, en fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle la santé mentale, c'est l'ensemble de ces trois-là. C'est-à-dire, et d'où ce qu'on appelle l'alignement, d'ailleurs, c'est quand il y a quelque chose entre mon corps physiologique, mon corps perçu et mon corps vécu qui, quelque part, s'harmonise, ou en tout cas est cohérent. Quand il y a des incohérences entre la manière dont je me vis et dont je suis perçu, et là je vais penser par exemple à la question de transidentité, par exemple, il y a quelque chose qui peut être extrêmement violent. Ce qu'on appelle la dysmorphie, c'est ça. Quand je me vis, par exemple, moi, je me vis comme étant à l'intérieur complètement ravagée et qu'on me voit comme quelqu'un qui va très bien, il y a quelque chose, je veux dire, c'est tout aussi violent.
C'est tout aussi violent.
Et donc, c'est pour montrer que finalement, en fait, nous ne sommes que corps et toute la pensée occidentale a mis, et je dis occidentale parce que c'est la pensée du un qui fait des dominations, qui fait des rapports de force et des rapports de domination. Et cette pensée-là, elle a situé justement l'esprit au-dessus de tout le reste. Et comme si nous étions des purs esprits, des pures âmes, justement, avec l'idée de pouvoir se détacher quelque part du corps. Et c'est ça qui, quelque part, nous fait le plus de mal, dans tous les sens du terme, parce que c'est à travers ça qu'on ne s'autorise plus à avoir des émotions, à accepter que nos émotions influent sur nos pensées, et non pas l'inverse. On oublie que, par exemple, nos pensées sont liées à nos intestins et non pas à notre cerveau. Voilà, par exemple, des petites choses qui font que le stress, le lieu du stress en médecine orientale, c'est le ventre. Et c'est là que tout s'exprime. Le pancréas, par exemple, tout ça n'est pas anodin, en fait. Et cette médecine plus holistique qui travaille à ne pas être malade et non pas une fois qu'on est malade, donc qui est quelque part un terrain préventif permanent. C'est-à-dire qu'un bon médecin oriental, et notamment en Chine, c'est un médecin qui n'a pas de patients malades.
Il n'a que des patients en prévention.
Mais en bonne santé, et c'est qu'une fois par an. Et s'il a des patients qui tombent malades, il perd sa réputation.
Ouais.
C'est, symboliquement, c'est pas du tout la même façon d'aborder quand même la question justement du corps et de l'état et de ce qu'on appelle la santé au sens large.
Marilyn, toi qui travailles avec les enfants, pour essayer de faire un petit parallèle avec nos enfants, oui. On parle beaucoup aussi de la santé mentale des jeunes, des enfants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de nous partager par rapport à ce que tu peux constater dans les accompagnements que tu fais, notamment dans les écoles, sur l'état émotionnel des enfants ? Il n'y a pas de réponse attendue scientifique, etc., mais juste ton constat, ta perception à toi.
La semaine dernière, j'étais en intervention dans les écoles et en fait, ils ont une... Donc, je suis en élémentaire, hein. Je ne suis pas au collège parce qu'il y a vraiment un switch qui s'opère à un moment donné. Mais en fait, c'est incroyable, ces boules d'amour, en fait. Ils ont vraiment ce truc de... Ils ont envie d'avoir des câlins. Ils ont envie d'être proches les uns des autres. Et finalement, s'ils commencent à vouloir faire du mal à quelqu'un, c'est parce que déjà, à l'intérieur d'eux, ça ne va pas. Et donc, c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. C'est que... Si vous allez... le fait de faire la distinction entre se moquer, taquiner, c'est des choses qui sont tellement difficiles pour eux parce que c'est tellement abstrait, en fait. Mais c'est le début, voilà, quand on commence à trop se moquer, ça, c'est un peu commencement du harcèlement et de leur comprendre les enjeux, tout ça. Mais en fait, finalement, ils sont très innocents, insouciants, et ils sont dans ce truc de... Moi, en plus, on est dans un quartier REP, plus, je sais plus, c'est REP ou REP plus, donc tu pourrais dire et en fait c'est incroyable, et c'est même encore plus incroyable que on a été dans d'autres villes qui sont pas REP. On a été à la campagne, et là où on a reçu le plus d'amour, où ça s'est passé le mieux, parce que vraiment, parce qu'en plus les enseignants, les directrices d'école qui vont en REP, c'est une passion. Elles y vont parce que vraiment, elles ont envie de faire bouger les choses. Et c'est juste incroyable. Je veux travailler qu'en REP ou en REP plus. Parce que vraiment, c'est... Puis vraiment, elles sont là avec nous. Elles ont une envie qui est juste incroyable. Enfin, en tout cas, bon, voilà, on n'a pas fait toutes les écoles de France, donc je ne vais pas pouvoir me comparer beaucoup, mais... En tout cas, pour l'instant, c'est là où on a reçu le plus de soutien. Et c'est vrai que les enfants, oui, il y a des enfants. En fait, les enfants, ils arrivent à capter les choses qu'on leur dit tout de suite. C'est-à-dire que pour un adulte, quand on va parler de certains, on va parler compétences psychosociales, mais de se connaître, de la gestion des conflits, la communication, on va en parler avec un adulte. Nous, on a déjà tellement de croyances, de souffrances, de traumatismes, que pour changer ça, ça met un certain temps. Avant qu'on se dise, bon d'accord, ok, je vais un peu lâcher l'affaire sur certaines choses que je crois acquises. Les enfants, ils sont dans une ouverture... C'est intégré tout de suite. Donc tu sais aussi bien que ce que tu es en train de dire, tu sais en fait quand c'est intégré tout de suite ou quand tu les fais chier, tu le sens tout de suite aussi. Il y a un truc de... Donc en fait, là, la première séance qu'on a fait, qui était du coup une première séance pour toutes les classes, hein, il y avait un espèce de... Ils sont avec toi, quoi. Ils sont complètement avec toi et comprennent. Et tu leur laisses la parole et tu leur laisses être sans jugement, sans critique, sans en train de leur donner des conseils, sans... Et il y a vraiment ce truc où ils se sentent... À la fin, en fait, généralement, je dis toujours... bon, on se fait un câlin collectif, mais ils sont tous là. Ils sont tous là.
Après, c'est un peu comme ce que disait Angélique, entre eux, leur capacité d'intégrer et l'exemplarité qui se manifeste différemment.
C'est ça.
Juste avant d'entrer dans la rubrique de Barbery, je mets les pieds dans la tasse. Naya, quand tu entends santé mentale chez les jeunes, qu'est-ce que tu constates, toi, au niveau des jeunes, par rapport à tes amis, ton entourage, à l'école? Est-ce que tu sens quelque chose qui est là, qui est latent sur justement ce mal-être psychologique, ces angoisses?
Oui, oui, oui. En vrai, nous, c'est quand même un sujet qui est un peu omniprésent. Il a été amené, en tout cas pour ma génération à moi, du coup, à travers les réseaux sociaux. C'était le pan santé mentale, parce qu'il y avait beaucoup de dysmorphie, anorexie, boulimie, tout ça. Donc l'histoire du rapport avec son corps, que surtout les filles du coup, mais bon, il y a aussi des garçons, que les jeunes filles pouvaient avoir à travers leur représentation au monde, donc à travers leurs réseaux sociaux. C'était beaucoup ça. Nous, après, en tant que, du coup, enfants en primaire, on n'avait pas de... La santé mentale, ça n'existait pas, mais on n'en parlait pas, en tout cas. On n'en parlait pas. Du coup, c'est venu, oui, plutôt à l'adolescence. Et c'est vrai qu'on voit... on voit les effets, en fait, tout simplement. C'est même tout ce qui est dépression chez les adolescentes et adolescents, ou les jeunes adultes tout court. Surtout, du coup, ouais, la vingtaine, souvent, pas une crise de la vingtaine, mais c'est un peu un chamboulement, donc l'entrée dans la vie d'adulte, la sortie de la vie d'enfant, commencer à travailler, mais en même temps, t'es encore considéré comme un enfant, mais t'es plus trop un enfant, enfin, toutes
ces dur,
choses-là.
Hein. Ouais.
Et c'est vrai que c'est quand même omniprésent, même dans nos discussions, moi, avec mes copines, avec mes amis, comment on se sent. Surtout par rapport même au contexte, que ce soit politique, social, dans notre pays. Et c'est vrai que c'est une considération. Et moi, je connais plein de personnes de mon entourage, donc qui ont mon âge, même plus jeunes, qui vont chez des psychologues, chez des psychiatres s'il faut. Enfin, il y a quand même un suivi, je trouve, qui est quand même là. Et c'est dû à tout ce qu'on a vu, qui a été propagé du coup par toutes les politiques pour la santé mentale.
Juste petite chose, c'est que c'est vrai que ce qu'on évoquait par exemple sur la question du corps, il y a quand même une institution à laquelle on passe tous qui nous coupe complètement de notre corps, c'est l'école. Parce que finalement, le métier d'élève, c'est faire taire son corps. C'est savoir faire pipi à heure fixe, savoir lever la main quand on doit parler, maîtriser tout ce qui sort de son corps. Enfin, en fait, et tout ça génère aussi quelque chose, et c'est pas par hasard justement que c'est au moment du collège qu'il y a beaucoup de choses qui s'expriment, c'est que moi, je peux pas m'empêcher de penser que l'école génère de la dépression. Parce que précisément, justement, on n'est pas en lien avec le corps. Déjà, il n'y a pas assez de sport, il n'y a pas assez d'éléments où on peut quelque part valoriser tout ce qui vient du corps, de pouvoir bouger, voilà. Et t'évoquais justement les enfants qui étaient du côté, qui avaient envie de câlin, c'est du corps, tout ça, c'est de l'élan en fait. L'amour, c'est de l'élan corporel et sensible vers l'autre. Et c'est de l'élan, ça veut dire aller vers, ça veut dire que c'est pas vers soi en fait. Enfin, et donc c'est pas quelque chose de purement intellectuel en fait. Il y a de la sensibilité au sens des sens, qui est de la sensualité et pas érotique. Et le corps, c'est pas que du sexuel, justement. Voilà. Et c'est là où il est important, justement, de rappeler qu'il faut de la sensualité au sens du sensible, du corporel, des sens, les odeurs. Voilà. Et tout ça n'est pas vraiment développé dans le rapport au savoir qu'on a, et qui est très académique, très hyper intello, en fait, et notamment en Europe.
Du coup, c'est pour ça que ça ne s'apprend pas. Tout de suite, Barbery met les pieds dans la tasse, 8 minutes avant la fin de l'émission. Ouais, donc, vous inquiétez pas, on ne finira pas en prison.
Non, ah
je
bon rigole.
Oh, zut. Je ne sais pas c'est quoi son sujet, mais...
Si on y était tous ensemble, ça pouvait être marrant.
Si on peut être dans la même cellule, éventuellement.
Oh, ça va. Oh, tu fais appel à moi dans les arrêts de jeu, je vois. Déjà, première chose, Naya, moi, je t'invite. T'es la bienvenue dans la récré junior, parce que j'aime trop comment tu analyses les choses.
Merci.
Déjà, c'est une première chose. Moi, ce matin, au GIG, j'ai entendu un chroniqueur qui disait « La santé mentale des Français, c'est politique. » Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État s'en fout ?
Naya.
De la santé mentale de la population.
Moi, je peux parler que de la santé mentale des jeunes adultes, du coup, parce que c'est ma catégorie de personnes. L'État s'en fout quand ça lui chante. L'État s'en fout. En théorie, l'État ne veut pas s'en foutre, je pense. C'est quand même, je pense que, en tout cas, le président actuel a tenté de mener des petites politiques en faveur de la santé mentale des jeunes. Après, il y a quand même un pas qui a été fait, parce que nous, par exemple, en tant que jeunes adultes, c'est pas un tabou d'aller chez un psychologue. Ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, a évolué par rapport à les générations précédentes. Après, oui, moi, je trouve, enfin, l'État s'en fout. En théorie, oui.
Tu peux le dire.
Oui, peut-être.
Bah, moi, je sais, typiquement, donc avec l'association, la Educat, on intervient grâce au programme NEFL, donc, parce qu'ils sont, ils adorent les acronymes dans l'éducation nationale.
Nouvelle éducation.
Non. Alors, qui, allez, c'est le jeu de l'émission. C'est notre école, faisons-la pour tous.
Ah, d'accord.
Ok.
Et en fait, c'est l'État qui pousse les écoles à faire des projets innovants, et en fait ils poussent vachement en domaine en compétences psychosociales. Donc je me dis, bon, déjà pour les jeunes et les enfants, ils s'en foutent moins. Voilà.
Sandra,
je passe mon tour.
Ok, t'as raison, moi aussi je passe mon tour quand dès que j'entends l'État, je passe mon tour. Mais du coup, il y avait une deuxième question, peut-être que celle-là si va vous parler. Est-ce que c'est pas paradoxal quand même dans cette société où les personnes qui vont le moins bien sont pas forcément les personnes les plus aisées, et quand on regarde le coût lié aux dépenses pour essayer d'aller mieux, exemple le prix d'une séance de psy c'est 60 €, sophro c'est entre 55
et
60.
Est-ce que la santé mentale c'est pas un sport de riche?
Les pieds dans la tasse. Allez, on y va.
Mais c'est une vraie question, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire une réponse là, sur est-ce que l'État s'en fout. Moi je dirais que le gouvernement s'en fout. Parce que l'État, c'est nous tous.
Il y a une différence.
Et que l'État a quand même mis en place, par exemple, les PMI, au sens des dispositifs d'État. Il y a quand même de la santé, un service médical à l'éducation nationale, un service médical du travail. Donc, pour le coup, du côté État, au sens institution intermédiaire, il y en a. Par contre, on n'est pas dans un moment, et ça fait une vingtaine d'années, j'ai envie de dire d'ailleurs, où la question de la santé publique est très mise à mal. Je vais rappeler la loi HPST de 2015 qui a quand même complètement démantelé les hôpitaux déjà, donc sans même parler de la santé mentale, ça va à tous les endroits.
La santé tout court.
Il y a eu en effet des subventions faites pour que les jeunes puissent avoir accès à 3 séances de psy, sauf qu'on sait qu'un vrai travail thérapeutique c'est plus d'un an, à raison d'une fois par semaine, donc c'est pas en 3 séances qu'on va régler quoi que ce soit. Voilà, donc tout ça pour dire que, et en plus on est en train de criminaliser aussi, et ça c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, on est en train de faire en sorte que toutes les médecines alternatives ne soient plus
exactement.
Du tout prises en compte. Ouais. Donc voilà, on est dans un moment où il faut être vigilant à plein d'endroits. Donc moi je dirais que le gouvernement actuel s'en fout, en tout cas il n'est pas investi de cette question-là, mais par contre il y a des instances d'État pour lesquelles on est censé se battre un peu.
Oui, c'est ça. Après ça, c'est clair
au
que
du service public,
l'État s'en fout, c'est beaucoup dire, dans le sens où l'État va mettre en place ou va proposer des dispositifs. Et après, est-ce que les politiques, les hommes politiques qui représentent l'État, eux, ne remplissent peut-être pas leur mission liée à ces questions-là? En tout cas, c'est vrai que le sujet mériterait 4 ou 5 heures de débat. Il y a une réelle question sur justement le bien-être et la répercussion sur nos enfants, sur notre éducation, en partant du principe que déjà, est-ce que nous allons bien pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour mettre en place tout ce qu'on a en tête. C'est-à-dire que des fois, on a des projections, c'est exactement ce qu'il faut faire, et pour autant, on est comme les deux pieds dans le ciment parce que impossible d'interagir, de proposer. On arrive quasiment à la fin de l'émission, il reste 2 minutes. L'idée, c'est que peut-être chacun d'entre vous puisse dire un mot pour, en vous mettant en tête que peut-être que là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui justement est dans ce pas bien. Je ne vais pas bien, donc tout ne va pas bien. Et quelle est la phrase que chacun pourrait proposer à cette personne qui nous écoute et peut-être à qui on peut faire du bien un court instant.
Moi, j'ai juste une citation d'un rappeur qui s'appelle Medine et qui dit « C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés.
» Pas mal du tout. Quelqu'un d'autre ? Rapidement.
Moi, je dirais « Fais-toi confiance. »
« Fais-toi confiance, ça marche. »
Moi, je dirais « Tu es parent, prends conscience de ta puissance éducative. » Prends soin de toi et tu verras, ça ira.
Ok, Benjamin.
Bah, y a déjà plein de choses qui ont été dites. Moi, je dirais aussi que, enfin, je dirais tout bêtement que ça fait partie de la vie d'aller mal et que c'est parce que justement il y a des moments où on va moins bien qu'on sait apprécier les moments où on va mieux.
Ouais, merci pour ça, Marilyn.
Bah, que la famille, c'est une équipe et que quand un enfant, voilà, on l'emmène chez le psy. Donc c'est bien que maintenant ce soit. Voilà, autorisé en tout cas que de plus en plus on les emmène, mais que les parents aussi peuvent aller voilà, voir un psy ou un thérapeute en tout genre, mais c'est une équipe en fait la famille, donc s'il y a une personne qui va pas bien, c'est tout le monde qui fait en sorte d'aider cette personne et peut-être en allant voir aussi un psy aussi de son côté.
Et un différent de celui de son enfant, si c'est
possible.
Ah,
oui,
c'est
bah, normalement, alors si la psy vous propose de prendre d'être ensemble, c'est que c'est, ça va pas du
ça
tout.
Va pas
on
n'a
pas les mêmes.
Barberiche.
Aller bien et aller mal, c'est bien.
C'est okay.
En tout cas, moi, ce que je souhaite dire aux auditeurs, c'est que le défi d'être parent, c'est un défi de tous les jours. Et finalement, moi, j'aime dire que la seule chose qui compte, c'est de veiller à avoir la motivation, l'énergie pour se relever et recommencer éternellement. C'était très agréable de partager ce temps avec vous. Merci. On était autour d'un thé dans l'émission Parentalité. Si je vais bien, tout va bien. Je sais qu'il y a un peu de frustration parce qu'on n'a pas pu aller dans tous les recoins. J'espère que vous avez dégusté votre moment. On se retrouve pour un nouvel épisode, pour une nouvelle thématique. Merci à tous et allons nous resservir une tasse. Ciao.
Merci
à toi, Ami. Mon Paris est fait.